Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC réaffirment leur engagement en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Ils l'ont fait savoir à l'issue du sommet extraordinaire convoqué par la SADC hier à Harare, au Zimbabwe. Par ailleurs, il faut 22 millions de dollars américains pour assister environ 282 000 enfants en situation difficile dans l'est de la RDC. L'alerte est de l'UNICEF. Elle veut ainsi répondre aux besoins humanitaires urgents de ces enfants. Ceci est contenu dans un communiqué parvenu hier à Radio Kapi. Et puis, l'invité de ce matin, Johnson Ishara, coordonnateur national de la Dynamique Génération Consciente, une structure basée à Goma. Il a quitté cette ville du Nord Kivu quelques jours avant l'entrée des rebelles du M23. Il nous parle du climat qui a régné au chef-lieu du Nord Kivu la veille de cet événement. Madame, Messieurs, bonjour. Ensemble, nous protégerons la stabilité régionale. Ces propos sont du président zimbabwéen à l'issue du sommet extraordinaire convoqué par la SADC vendredi à Harare, capitale du Zimbabwe. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment ainsi leur engagement en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Le sommet a également rendu hommage aux 16 soldats de la SAMI DRC qui ont péri dans le conflit est congolais. Les chefs d'État et de gouvernement restent unis pour une solution durable et pacifique, a dit Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, des propos recueillis par Billy Vandutumba.
Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Nous ne pouvons pas oublier la crise humanitaire résultant du conflit armé qui sévit dans l'est de la RDC. Le sort de millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays ne peut et ne doit pas être ignoré. La SADC apprécie le soutien apporté par le partenaire de coopération internationale. Toutefois, pour répondre aux besoins critiques des populations déplacées, il faut faire davantage. Pour remédier à cette situation, les habitants de l'est de la RDC souffrent depuis bien trop longtemps. La SADC condamne dans les termes les plus forts les attaques de forces agressives. Alors que nous prenons le temps de pleurer notre perte, notre détermination à assurer la sécurité collective ne peut être ébranlée. L'importance du dialogue et de la consolidation de la paix dans l'intérêt des populations de la partie orientale de la RDC doit être poursuivie.
The importance of dialogue and the peace building for the benefit of the people of the Eastern DRC must be boldly pursued.
Parlons justement de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, lance un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour assister environ 282 000 enfants en situation difficile dans l'est de la RDC. Avec cette enveloppe, cette agence du système de l'ONU entend apporter à ces enfants la protection, la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, ainsi que les services d'éducation. Ceci est contenu dans un communiqué parvenu hier à Radio Kapi. Blaise Ndongala Mayanda a lu pour nous se communiquer.
À travers cet appel, l'UNICEF veut répondre aux besoins humanitaires urgents de ces enfants, notamment en matière d'accès à l'eau potable, d'installations sanitaires adéquates, de médicaments, de fournitures médicales et autres. Selon son communiqué, cette agence du système de l'ONU a fait savoir que les principaux risques pour les enfants de la partie est du pays sont actuellement liés à la santé et à la protection. Cependant, l'UNICEF déplore les conditions de vie précaires dans les camps, caractérisées par la promiscuité et les salubrités, exposant ainsi les enfants à un risque élevé de maladies telles que le choléra, la rougeole et la variole. Cette organisation onusienne rapporte également que la peur des affrontements et la saturation des structures de santé incitent de nombreux parents à hésiter de conduire leurs enfants à l'hôpital. Pour les représentants intérimaires de l'UNICEF en RDC, la situation à Goma s'est considérablement détériorée, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà alarmante. Par ailleurs, l'UNICEF promet les droits et les bien-être de chaque enfant et travaille dans les 190 pays et territoires du monde avec des partenaires pour faire de cet engagement une réalité.
Pendant ce temps, le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a pris officiellement ses fonctions vendredi. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'hôtel de Beniville, devant une foule immense d'habitants et des autorités para-étatiques, politico-administratives et militaires. Le général Évariste Somokakule, qui a provisoirement installé son bureau à Beniville, a dit vouloir compter sur la collaboration de tous pour mettre l'ennemi hors des territoires conquis. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Je rends mes vibrants hommages au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise et à mes confiants les fonctions de gouverneur de province. Une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible et j'invite les officiers, les soldats ainsi que les patriotes Wazalendo de ne pas céder au désespoir mais de capitaliser leur situation actuelle qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Nous avons donc choisi de nous battre pour notre dignité et notre souveraineté et la riposte sera à la taille de la provocation qui n'a que trop duré.
De son côté, Jules Maté, député national élu du territoire de Beni, appelle la population à soutenir le nouveau gouverneur de province et l'armée pour récupérer les territoires occupés par l'ennemi. Le député Jules Maté s'exprime.
Il a bien dit que son bureau est à Goma. C'est ce que nous avons retenu. Il va faire tout le possible pour qu'il regagne dans son bureau, qu'il rejoigne son bureau à Goma. C'est le message qui nous a beaucoup frappé. Et il nous a appelé à l'accompagnement. Jeunes, vieux, tout le monde, tout Congolais, vivant dans la province du Nord Kivu, et même ceux d'autres provinces, de se rejoindre à nous pour que le Congo reprenne les positions déjà prises par le Rwanda. Et nous sommes prêts, nous, en tant que députés nationaux, nous sommes prêts.
Rendons-nous en Ituri. Une vingtaine de morts et plusieurs personnes disparues et des dégâts matériels. C'est le bilan des attaques jeudi 30 janvier des rebelles ADF dans les localités de Katwa Kasoya, Mataa et Ndalia sur la route Komanda Luna au sud du territoire d'Irumu. Des sources locales disent déplorer la léthargie des forces conjointes pour traquer ce groupe armé qui a intensifié les exactions depuis le début du mois de janvier 2025 dans la région. Le point avec Isaac Remoyope.
La première attaque de ce groupe armé s'est produite dans la localité de Katwa Kasoya, où une dizaine de personnes ont été abattues par ces ADF, précise la société civile locale. Plusieurs personnes sont également portées disparues, dont une femme qui a abandonné un enfant de 3 ans, gardé actuellement par l'épouse d'un militaire, ajoute la même source. Dans un autre village, Mataa, on déplore 4 morts. En Ndalia, une personne a été tuée et 2 motos incendiées, ajoute des sources locales. Ce bilan est encore provisoire à cause de l'inaccessibilité de la zone qui est vidée des habitants. Précise le notable Jackson Aoussé Afingoto. Ces derniers déplorent l'activisme de ces rebelles ADF à cause du faible effectif des FARDC qui ont dégarni leur position pour aller combattre l'M23. Les autorités coutumières locales demandent aux forces conjointes FARDC-UPDF de poursuivre ces rebelles pour démanteler leurs bastions. Certains groupes armés locaux ont également riposté à ces attaques pour appuyer l'armée régulière. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'armée ougandaise annonce qu'elle va renforcer ses défenses dans l'est de la RDC. Cette annonce faite hier survient alors que le groupe rebelle M23, soutenu par les troupes rwandaises, intensifie son offensive dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, justement dans l'est de la RDC. Reportage de Poli Mousalia, rendu par Ronelli Ntibonera.
Dans un communiqué publié sur X, l'armée ougandaise indique qu'elle adoptera une posture défensive avancée jusqu'à ce que la situation revienne à la normale dans la région. L'objectif de cette mesure, poursuit le communiqué, est de dissuader et d'empêcher le nombreux autres groupes armés négatifs opérant dans l'est de la RDC d'exploiter la situation d'une part et d'autre part de protéger et sécuriser les intérêts de l'Ouganda. Parmi les groupes armés opérant dans la région figurent les ADF, Forces démocratiques alliées, un mouvement d'origine ougandaise qui, depuis 2014, est accusé d'avoir massacré plusieurs centaines de civils dans le territoire de Beni au Nord Kivu, ainsi que dans la province voisine de l'Ituri. Depuis novembre 2021, l'armée ougandaise est déployée dans la région sur invitation du gouvernement congolais. Les soldats ougandais appuient les FARDC dans leurs efforts pour traquer les éléments de l'ADF. L'UPDF, en collaboration avec les FARDC, suit de près l'évolution de la situation sécuritaire et continue de traquer agressivement les restes des ADF partout où ils vont, assurent les communiqués de l'armée ougandaise.
Dans l'actualité aussi, la clôture hier vendredi à Kinshasa de la formation sur l'investigation post-explosion dispensée par UNMAS, la brigade anti-mine des Nations Unies, au profit d'une vingtaine d'agents de l'ordre congolais. L'objectif est de satisfaire le besoin en urgence opérationnelle des agents de la police nationale congolaise en leur donnant une capacité d'évaluation de la menace des engins explosifs. Détails dans ce reportage de Plotin Yambenga, Élise Kavira et Sulamit Ngoma.
Cette cérémonie de clôture était marquée par la présence des autorités de la police nationale congolaise. Jean-Denis Larsen, directeur du programme UNMAS RDC, qui était aussi présent, a dans son intervention invité les bénéficiaires à faire bon usage des enseignements dispensés par les instructeurs des Nations Unies.
À partir d'aujourd'hui, vous avez la responsabilité non seulement de protéger vos compatriotes, mais aussi de partager vos connaissances avec vos collègues pour continuer à renforcer la sécurité nationale.
Pour sa part, les représentants du commissaire général de la PNC, les commissaires divisionnaires adjoints Jean Bosco Galenga, remercient la MONUSCO à travers UNMAS pour avoir initié cette formation au profit des agents de la police.
À cet effet et au nom de Monsieur le commissaire général de la police nationale, je remercie particulièrement la haute hiérarchie de la MONUSCO pour avoir accepté d'organiser cette formation dans ces installations et en a facilité le déroulement.
Quelques bénéficiaires de cette formation en investigation post-explosion parlent de son apport dans l'exercice de leur mission de protéger la population et ses biens.
Tout au long de cette formation, nous avons appris la composition de l'engin explosif improvisé.
Avoir ce genre de formation, c'est profitable pour nous, étant agents de l'ordre qui sont censés de sécuriser les personnes et leurs biens.
Des brevets ont été remis aux différents participants à l'issue de cette session, une première à Kinshasa d'après les formateurs.
Direction la ville de Matadi. Le Congo central est prêt à accueillir les assises de la première conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC, assises prévues du 10 au 14 février 2025 à Matadi. C'est ce qu'affirme le président de l'assemblée provinciale du Sankuru, accompagné par la questeur de l'assemblée provinciale de la Tchopo, en séjour à Matadi pour se rendre compte de l'évolution des travaux préparatoires de ces assises. Hier, le président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, les a conduit auprès du gouverneur Grace Nkwanga Bilolo pour des civilités et des échanges autour de cette activité. Nana Plurish Mambou, reportage.
Après avoir palpé du doigt les réalités sur terrain, le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru s'est dit satisfait de la façon dont se déroulent les préparatifs de cette première session ordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales. Lambert Mokonzo.
Nous avons pensé d'avancer pour des raisons de repérage et de réservation d'hôtels, apprécier les conditions logistiques dans lesquelles nos collègues seront logés. Nous sommes en train de constater effectivement que les conditions dans lesquelles les collègues seront logés sont bonnes.
Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et président de ce forum explique la genèse de cette organisation. Papi Mantezolo.
Après que nous ayons la 11e session des conférences des gouverneurs à Kalemie, les chefs de l'État voudraient que les institutions provinciales soient stables. C'est ainsi qu'il y a eu une organisation où moi, votre serviteur, a été porté à la tête de ce forum des présidents.
Cette première session ordinaire des présidents des assemblées provinciales de la RDC va réunir les 26 présidents des assemblées provinciales du pays, leurs assistants ainsi que les experts dans différents secteurs. En dehors de la stabilité et du développement des 26 provinces de la RDC, ce forum sera aussi un cadre pour réfléchir sur comment protéger les provinces contre les infiltrations. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Burkina Faso, l'armée accusée d'avoir perpétré un nouveau massacre dans le nord-est du pays. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées en début de semaine entre les localités de Seitenga et de Seba dans la région du Sahel. Ce, alors qu'un grand nombre de personnes sont toujours portées disparues, plusieurs sources locales accusent un convoi de ravitaillement militaire d'être l'auteur de ces exactions. Donald Trump lance la guerre commerciale contre le Canada, le Mexique et la Chine. Le président américain impose à compter de ce samedi 1er février des droits de douane sur les produits originaires des trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, annonce la Maison Blanche, suscitant ainsi des inquiétudes pour le commerce international.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Johnson Ishara Butaragaza, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente, une structure basée à Goma au Nord Kivu. Il séjourne à Kinshasa en provenance de Goma où il a quitté quelques jours avant l'entrée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans cette interview accordée à Radio Kapi, il explique le climat qui a régné à Goma la veille de ces événements. Johnson Ishara est avec Grace Amzati.
Johnson Ishara, bonjour.
Bonjour.
Quelle était l'atmosphère à Goma quelques jours avant l'arrivée des rebelles? C'était quoi le ressenti dans la ville?
Mes compatriotes qui me suivent depuis Goma peuvent se rappeler que une semaine avant, on avait un climat un peu sombre. Donc il n'y avait pas trop de soleil, il n'y avait pas également de pluie. Mais on sentait qu'il y a un vent qui est en train de secouer l'atmosphère et ça risquerait de très mal se passer si on ne prenait pas toutes les précautions nécessaires. Nous avons alerté à tous les niveaux que l'ennemi était en train d'encercler notre ville. Parce que déjà, avec la chute de Minova, on a également été informé tragiquement de la mort du général Turumami, le gouverneur de province. C'était un mauvais signe également. Encore que le gouverneur, il avait dit: moi, j'ai ma famille à Goma. J'ai ma maison à Goma. Si l'ennemi veut entrer à Goma, il doit se rassurer qu'il est passé d'abord sur nos cadavres. Et malheureusement, il est parti avant que l'ennemi n'arrive et ça n'a pas pris 48 heures pour que Goma tombe. Et cela a créé des frissons dans la conscience collective. Et rappelons également que le dimanche dans la nuit, au même moment que déjà le gouverneur venait d'annoncer, publier une vidéo, c'est un communiqué enregistré, appelant à la résistance, disant également qu'aucune autorité ne doit quitter Goma. Mais dans la même nuit du dimanche, nous avions encore intercepté d'autres images faisant évacuer certaines autorités et des hauts commandants de nos forces armées.
Alors, quelle était l'attitude des habitants de Goma lorsqu'il y avait ces différentes alertes sur la menace qui pesait sur la ville?
Goma, c'est une ville de résilience, c'est une ville de résistance. Nous avons connu toutes les guerres de ces pays. Nous avions enfin une génération qui comprend comment il faut garder son identité en tant que Congolais et face aux dangers, face aux menaces, face à toutes ces détonations, le Congolais vivant à Goma disait: nous devons rester debout. Les gens ont montré qu'ils aiment Goma, il fallait rester. Et jusqu'à la dernière minute, les habitants de Goma étaient convaincus que la ville ne tombera pas. Et si quelqu'un osait déstabiliser la ville, les habitants de Goma étaient convaincus que les forces armées de la République vont tout faire pour nous épargner du pire. Malheureusement, c'est arrivé.
Et donc, ce qui rassurait plus la population, c'était les messages des autorités qui appelaient les habitants de Goma au calme et que toute la situation était sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo.
Non, ce n'est pas ces messages des autorités. Le message de beaucoup d'autorités ont désorienté par contre les habitants. Parce que les habitants ont des leaders naturels, des leaders locaux qui sont à mesure de donner à temps réel la situation de ce qui se passe. Parce que nous avons aussi des médias locaux et nous avons relayé des bons messages pour leur dire que la ville est en danger, mais nous devons nous préparer, nous devons nous ravitailler en stock, nous devons également nous rassurer que les enfants sont à l'abri et nous devons fermer nos portes, nous restons dans nos maisons. Par contre, le politicien, au même moment que la ville était à feu, ils ont dit que les FARDC contrôlaient presque entièrement la ville et c'était du mensonge. Je vis beaucoup de dignitaires qui disaient: nous avons le contrôle de la RTNC, de l'aéroport, du port, et à un moment, il y a des civils qui sont sortis voulant aller prendre le bateau pour aller au port. Et certains ne sont plus rentrés. Qui sont responsables? Voilà, mauvaise communication de cette guerre, ça a exposé nos compatriotes.
Et voilà, à ce stade, vous en tant qu'acteur, leader communautaire à Goma, qu'est-ce que vous pouvez recommander? Quel message avez-vous à lancer par rapport à la situation de la ville et tout comme de la province d'une manière générale?
Ce qui ne nous tient pas nous rend de plus en plus forts. Les situations difficiles forgent des hommes forts. Les situations faibles forgent des cons. Enfin, nous devons prendre une décision de dire plus jamais. Nous ne serons plus jamais humiliés. Nous devons maintenant nous lever et dire non. Non à tous les traîtres internes. Parce que l'ennemi externe n'aura jamais de la force s'il n'a pas des complices à l'intérieur. Et c'est à cela une occasion pour moi. J'espère que le chef de l'État a l'habitude de suivre la radio Kapi. Je peux en profiter pour lui dire: le chef de l'État a encore une très bonne occasion de sauver ce pays. Si et seulement si, il s'est décidé de rompre avec cette mauvaise classe politique qui est autour de lui et de faire confiance à la jeunesse. ils sont là, ceux qui aiment ce pays. Ils n'ont pas besoin de vous mentir pour s'enrichir, parce que le chef de l'État est entouré par des gens qui voient l'argent. Et leurs enfants sont en Europe. Nous sommes les enfants de ce pays et nous voulons voir ce pays s'élever. Nous sommes fatigués d'être humiliés chaque fois.
Johnson Ishara, je vous remercie.
Je vous remercie également et merci à tous les auditeurs qui nous suivent partout.
Le coordonnateur national de la Dynamique Génération Consciente, une structure basée à Goma, répondait aux questions de Grace Hamzati. Par ici prend fin ce journal mis en onde par Jean-Claude Siala. Merci de rester des nôtres.